le 7-9 sur France Inter.
Notre invité Ali Badou est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine.
Et philosophe lui-même, bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Et bienvenue, pas facile d'aimer la politique.
Non, pas facile. Alors c'est vrai que vous faites allusion à mon édito, mes éditos contiennent toujours une note personnelle et c'est vrai que pour moi la politique des partis, la politique politicienne est toujours associée à quelque chose de vénéneux, d'un peu mortifère, c'est lié à une expérience personnelle en fait. Mon père était issu d'une famille de petits commerçants du Poitou, vraiment de la campagne, chose exceptionnelle pour l'époque, il a réussi à faire l'ENA, il était bon élève.
Parfait exemple de ce qu'on appelle la méritocratie républicaine.
Voilà, et il voulait, c'était s'engager en politique et venger toutes les générations de petites gens taillables et corvéables à merci dont il était issu. Il s'est engagé au Parti Socialiste et puis en 75 il avait eu le vote des militants pour se présenter comme député de la Vienne, son département natal, et il a été écarté par Mitterrand qui a placé Edith Cresson. Il est tombé un peu plus tard dans une mélancolie assez sombre et en 81 il n'a pas pris de fonction, il était déjà hors jeu, il s'était déjà retiré complètement de la capitale.
Et il est parti s'installer à la campagne.
Il est revenu à la campagne, c'est vrai que voilà, ça marque un enfant. Et alors c'est vraiment étroitement personnel comme considération, mais ça explique une difficulté à trouver enchanteur le jeu des partis politiques.
C'est sûr, mais être philosophe c'est aussi être capable de s'arracher à l'enfance, s'arracher à son histoire, et pourtant votre conclusion est dure. La conclusion de votre édito, ouvrez les guillemets, « Lors des soirées électorales, ma voix glisse dans une urne funéraire », fermez les guillemets.
Oui, je trouve ça difficile d'aller voter en fait, oui. Donc c'est
une manière
de le dire
publiquement.
Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de s'enthousiasmer pour un candidat.
Même s'il y a malgré tout un lien consubstantiel, fondamental, entre la philosophie et la démocratie.
Oui, je sais, c'est pas quelque chose qu'on peut justifier en principe. Donc, mais vous savez, mes éditos sont très particuliers, c'est-à-dire que je pars toujours d'une expérience personnelle, et je pense que c'est important d'envisager les grandes questions à partir de son vécu, de son passé. Et effectivement, après on peut s'en arracher et philosopher, mais partons de là, c'est la base.
Un dossier 100% sans candidat, pourquoi ? Ils n'ont rien à nous dire ?
Alors voilà, la question qu'on s'est posée en une, c'est lié aussi à ce que je
viens de vous
dire. La grande question,
c'est la démocratie, ça devrait être
ça
quoi ?
Ça devrait être quoi ? Et c'est vrai que là, on voulait marquer un pas de côté par rapport à, disons, au flot de commentaires sur la primaire et se poser la question un peu fondamentale. D'ailleurs, si on se pose cette question, ce qui est intéressant, c'est que la démocratie, ça n'est pas un régime politique. C'est-à-dire qu'il y a
expliquez-nous ça.
Il y a une fausse analogie, si vous voulez. On pense que il y a trois grands types de régimes politiques, c'est-à-dire la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Alors monarchie, pouvoir d'un seul, on voit bien ce que c'est. Aristocratie,
le roi.
Pouvoir des meilleurs, pouvoir des grands.
Les élites.
Les oligarchies, on voit bien ce que c'est. Mais la démocratie, c'est quoi ? Est-ce qu'un peuple tout entier peut être assemblé pour vaquer aux affaires publiques ? Ça paraît peu réalisable. Et d'ailleurs Rousseau, qui était l'un des plus démocrates de nos philosophes, dit au sens vraiment exact du terme, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de démocratie. C'est-à-dire on ne peut pas
imaginer. Il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais.
Oui, c'est Rousseau dans le contrat social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer au rêve démocratique ? Pas du tout. Ça veut dire que ça n'est pas un régime, c'est une exigence. Ça veut dire qu'on doit bricoler. On n'arrive pas à faire en sorte, mais même en famille...
La démocratie, c'est un bricolage.
C'est un bricolage. On n'arrive pas à faire en sorte que le peuple lui-même s'administre, sans que personne ne prenne le dessus, sans qu'il y ait de niveau intermédiaire, de hiérarchie. Donc... on bricole. Alors, les Athéniens avaient trouvé un système qui est la boulée, qui était une assemblée dont les membres étaient choisis par tirage au sort,
oui.
Avec quelques restrictions, ils étaient 500. Et nous, on a un autre bricolage institutionnel. On a additionné deux choses. On a additionné la notion de mandat, c'est-à-dire que quelqu'un va oublier ses intérêts privés, les intérêts de son village, pendant la durée d'un mandat et pendant laquelle il a tout pouvoir. Et puis, on ajoute au mandat le suffrage universel. En 1848, il est seulement masculin, mais aujourd'hui, il y a un suffrage universel direct. Et donc, c'est un bricolage institutionnel. Mais en fait...
Qu'est-ce qui manque du coup ?
Eh ben,
quand même un grand moment démocratique, l'élection de ses représentants au suffrage universel.
C'est ça qui est intéressant, c'est que par rapport à l'exigence démocratique, que le peuple gouverne lui-même, l'exigence n'est jamais satisfaite par ces bricolages institutionnels. Mais ce qui manque, je dirais, essentiellement, ou ce qui doit compléter le jeu des institutions, c'est un certain état social. Et ça, c'est Tocqueville qui l'avait bien vu quand il voyage en Amérique. Il s'aperçoit que l'état social, ce qu'il appelle l'état social des Américains, est particulier, surtout au nord de l'estuaire de l'Hudson, dans la Nouvelle-Angleterre, il voit que les gens, c'est des migrants qui sont arrivés, qui n'avaient rien. Et ils sont tous repartis de zéro, ils ont mis leurs enfants dans les mêmes écoles. Alors certes, certains ont mieux réussi économiquement, mais l'état social est foncièrement égalitaire, contrairement à ce qui prévaut à l'époque en Europe.
Qu'est-ce qui se passe au sud de l'Hudson ?
Eh bien, au sud des États-Unis, Tocqueville voit déjà que se reconstruisent des grandes propriétés foncières et des mœurs qui ressemblent à celles de l'aristocratie européenne. Et dans des pages, on est en 1835 quand il écrit, et dans des pages assez sidérantes, il semble avoir la préscience de la guerre de sécession.
Vous faites un panorama des minorités agissantes, Nuit Debout, les zadistes, vous passez par le conseil représentatif des associations noires de France. Ils s'opposent à ce que certains candidats de droite appellent la majorité silencieuse. Pourquoi ?
Alors, d'abord, il faut voir que c'est important en démocratie de se poser la question de l'état social dans lequel on se trouve. Il suffit pas d'avoir le suffrage universel, comme j'ai dit, il suffit pas d'organiser des élections, il faut une certaine vitalité de la société. Et donc, par rapport aux minorités agissantes, on est forcément un peu partagé. C'est-à-dire, d'un côté, elles traduisent une véritable vitalité de l'exigence démocratique, mais au niveau populaire, au niveau des territoires, au niveau des rues, au niveau des places. Et ça, c'est forcément assez joyeux et signe d'espérance. Et en même temps, on se demande toujours où est la majorité. Alors, de manière un peu subtile...
Majorité silencieuse, il y a l'un des candidats à la primaire des Républicains qui sait parfaitement où elle est dans ses meetings.
Oui, mais de manière un peu subtile, la droite est en train de retourner une expression qui vient de Tocqueville, justement, et de Benjamin Constant. Les libéraux, en fait, au début du 19e siècle, les penseurs libéraux disaient « Mais dans la démocratie, il y a un danger, c'est que ça devienne la tyrannie de la majorité. » Évidemment, c'était des penseurs libéraux, on est à cette époque-là.
Sous-entendu, il faut protéger les minorités.
Oui, et quand vous écoutez les discours des hommes politiques aujourd'hui, vous entendez une inversion de la formule. On vous dit que les minorités agissantes sont en train d'exercer une tyrannie et qu'on est livré à la tyrannie des minorités. Ça, c'est vraiment paradoxal et c'est un signe de l'époque.
Paradoxal ou absurde ?
Un peu absurde, oui.
Alors, pas de candidat dans votre magazine Philomag, sauf une femme. Mais elle est islandaise, elle s'appelle Birgitta Jónsdóttir, c'est la fondatrice du parti pirate et elle sera peut-être le prochain premier ministre de l'Islande. Ouais, pourquoi elle ?
Bon, j'adore. Elle fait partie des personnalités qui ont vraiment réfléchi à la manière d'utiliser Internet et le numérique pour faire une nouvelle démocratie. Et elle a voulu transformer l'Islande en un paradis de l'information. Comme il y a des paradis financiers, elle disait, mais finalement, tous les lanceurs d'alerte, tout le monde peut venir en Islande, publier tout ce qu'il veut, et on va créer un statut de réfugié de l'information. On va être comme les Pays-Bas du XVIIe siècle.
Verdict des urnes demain. Merci Alexandre Lacroix, Philomag et dans les kiosques.
Merci à vous Ali Badou.